Maintenant, je répète, avec le Concile Vatican II dans la société ecclésiastique, l'Église catholique. Tout d'abord, les principes de la liberté. Nous devons voir la différence entre les concepts de liberté catholique et les concepts de liberté libérale, maçonnique ou relativiste que vous voulez. Pour nous, les catholiques, la liberté, c'est cette perfection qui nous donne le bon Dieu. Nous savons que Dieu, c'est le but de toute la création. C'est un but obligatoire. Or, les animaux, les êtres inférieurs à l'homme, ils atteignent ce but, ils font la gloire de Dieu, obligés par l'instinct. Ils n'ont pas des actes libres. L'homme, à l'homme, Dieu lui donne cette perfection, qu'il peut coopérer de lui-même à ce but, que c'est lui-même, donc la gloire de Dieu. Eh bien, les libéraux, ils enseignent une autre doctrine. Ils nient que l'homme a pour but Dieu, et ils affirment que l'homme est absolument libre, même par rapport au but final. Et alors ils affirment, à cause de cette philosophie, qui est contraire à la philosophie chrétienne, que l'homme a droit, étant donné qu'il est libre par rapport à tout, a droit à la pratique publique de n'importe quelle idée. Pour cela, ils appellent liberté de conscience, de culte, religieuse, d'expression. Mettons-nous d'accord, il s'agit de voir cela. Est-ce que l'homme a droit à la pratique de n'importe quelle conviction? Droit de penser, d'écrire, de pratiquer publiquement. Eh bien, nous allons voir que cette idée libérale a été introduite dans l'Europe chrétienne par la révolution humaniste, par une attitude des humanistes qui s'appelait la tolérance. Cela, on le comprend par rapport à la chrétienté médiévale. Dans le Moyen-Âge chrétien, il n'y avait pas cette tolérance pour le mal et pour l'erreur, c'est-à-dire que vous n'avez pas droit à la pratique publique de n'importe quelle idée et n'importe quel vice. En privé, vous avez droit à faire ce que vous voulez. Vous pouvez en privé même à faire des cultes sataniques. Mais que vous, en public, vous prétendiez répandre n'importe quelle doctrine et n'importe quel vice, ce n'était pas permis. Il y avait la Sainte Inquisition. Il y a eu beaucoup de saints qui étaient membres de la Sainte Inquisition, qui examinaient votre doctrine. Si votre doctrine, ce n'était pas conforme à la vérité objective, et là c'est le point. Il existe une vérité objective où tout est relatif. C'est là le grand problème. Bien, si ce n'était pas conforme à la vérité objective, vous étiez signalé au bras séculier, alors c'était les rois, par l'intérêt du bien commun, qui faisaient intervenir la magistrature, la police, etc., selon la nécessité. Eh bien, les humanistes introduisent dans l'Europe cette idée de tolérance. Mais non, mais laissez-les faire, ça ne fera pas trop du mal. Il nous semble, à l'homme moderne, il semble que ce principe soit pas trop grave. Il faut quand même laisser faire. Mais si je vous dis que c'est justement au nom de ces droits de l'homme, de ce droit à la pratique publique de n'importe quelle idée, qu'on arrive aujourd'hui à l'égalisation, à la légalisation de l'homosexualité avec les droits d'adoption, et demain, et on a déjà des nouvelles sur les étapes futures, j'espère que ce ne sera pas trop fort pour vous, mais enfin, c'est sorti dans la presse, c'était la presse italienne, catholique italienne, le journal Avvenire, en Chine, les médecins dans les hôpitaux, ils mangent et ils vendent les fœtus avortés. Ils demandent donc que l'État reconnaisse cet droit à se nourrir de la chair humaine. Et bien sûr, ça a toujours fait au nom des droits à la pratique publique de n'importe quelle conviction. On a l'impression qu'en voyant un peu l'attitude de l'homme actuel, ça ne passera pas beaucoup de temps sans que nous ayons affaire avec cette nouvelle liberté. Enfin, vous verrez, et ce n'est pas la dernière. Parce qu'on affirme, c'est l'affirmation du relativisme le plus tyrannique. On aura droit à faire n'importe quoi. Seulement que les divins 51% du Parlement décident que cela soit licite. Vous voyez, c'est la tyrannie de la liberté.
Eh bien, donc c'est les humanistes qui introduisent le principe de la tolérance, mais c'est la révolution dite française, la révolution libérale, qui en fait... Non, d'abord, pardon, j'ai fait une parenthèse. Après la révolution humaniste qui introduit cet esprit de tolérance pour l'erreur, sera la révolution protestante qui donne naissance en Europe d'une nouvelle religion, chose jamais vue. En 1517, Luther affirme une religion nouvelle, doctrinalement différente de ce que nous appelons la vraie religion, la vraie foi. C'est toujours la question de la vérité objective ou du relativisme. Et bien sûr, alors, l'Église catholique réagit avec le Concile des Trente. Les rois chrétiens, c'était l'empereur Charles V, alors il prend les armes, parce qu'entre-temps, Luther, il s'est fait protéger par les princes allemands. Il commence une guerre, ce qui s'était déjà passé dans la chrétienté, parce qu'il y avait une hérésie, il y avait une tentative militaire des hérésiarques d'imposer leur doctrine. Les rois chrétiens, eh bien, faisaient recours aux armes. Et jusqu'à ce moment-là, on avait pu réagir avec la force et limiter ou éliminer l'erreur. Mais pour la première fois en Europe, on n'arrive pas à faire cela. Et alors, on arrivera au 1648, la paix de Westphalie, dans laquelle on va déclarer pour la première fois, après l'empereur, souvenez-vous, Théodose le Grand, qui avait déclaré la religion catholique la religion officielle de l'État, au 1648, à la paix de Westphalie, on utilise une formule qui dit comme ça, « cuius rege eius religio ». Dans cet État, on suit la religion du roi. Si le roi est protestant, la religion publique sera protestante. Si le roi est catholique, la religion publique sera catholique. Eh bien, c'est la première fois qu'en terre d'Europe, cette terre qui a été restaurée pour le sang de notre Seigneur, on reconnaît les droits à la fausse religion, à une existence publique. Mais sera alors la Révolution française, la Révolution libérale dite française, qui fera de ces principes-là un principe constitutionnel. Et en effet, avec la Déclaration des droits de l'homme, justement, on introduit dans toutes les constitutions, constitution qui est avant, dans tous les États catholiques, commençait au nom de la Très Sainte Trinité, maintenant, dans toutes les constitutions, et aujourd'hui c'est comme ça, au nom des droits de l'homme, on affirme que l'homme a droit à la pratique publique de n'importe quelle conviction. Et alors, vous pouvez remercier ces principes-là si aujourd'hui vous verrez venir n'importe quoi. Au moins sachez qu'il faut remercier. Mais vous pouvez me dire, mais mon père, mais maintenant, même dans l'Église catholique, on a affirmé les mêmes principes dans les conciles Vatican II, dans les décrets Dignitatis Humanae, on a affirmé d'une façon négative ces mêmes principes. Eh bien, je vous dis, vous avez raison. Et c'est là ce que voulait Monseigneur Lefebvre démontrer, comme dans le Concile Vatican II, eh bien, d'une forme négative. Dans les décrets Dignitatis Humanae, on dit « personne peut être empêché de pratiquer publiquement ses convictions ». Et voilà, c'est la formule négative de la même doctrine libérale. Mais alors, la réponse, l'objection qu'ils nous font, « mais non, mais vous voyez les démons partout, c'est pas vrai, les papes, il a fait pour les pays communistes ». N'est-ce pas? Les communistes, ils ont parlé de liberté religieuse, et alors le pape, pour avoir la liberté des catholiques, il a affirmé ça. Si c'est cela, serait très bien. C'est pas la première fois qu'on parle des libertés religieuses dans l'Église. Si vous vous souvenez, au Mexique, les cristeros, ils combattaient pour la liberté de la religion. C'est un peu différent. C'est la liberté de la religion catholique. Et c'est le cardinal Ottaviani, dans son manuel des droits publics de l'Église, qui nous donne l'explication. Il nous dit « l'Église est la vérité objective ». Je reviens sur le point que cela, c'est le grand point doctrinal. Existe une vérité objective ou tout est relatif. Bon, cardinal Ottaviani, vous savez comment il pensait, il disait « l'Église est la vérité objective ». Alors, quand l'Église est en persécution, elle a droit à faire appel à la liberté de la religion, ce que faisaient les cristeros au Mexique. Mais lorsque l'Église est au pouvoir, elle quitte cette liberté aux fausses religions. Alors vous allez me dire, ah, mais voilà, vous avez deux poids et deux mesures. Non, seulement nous affirmons qu'il existe une vérité objective et la vérité et l'erreur, ils n'ont pas les mêmes droits. La première chose sur laquelle il faut discuter, c'est existe une vérité objective ou non. C'est là le grand problème. En effet, si par exemple au Mexique, ils auraient vaincu les cristeros, ils avaient vaincu, mais ils ont été trahis, n'est-ce pas? Vous croyez qu'ils auraient, ils auraient donné la liberté aux protestants de faire propagande? Non, bien sûr. Vous voyez qu'il y a deux conceptions de liberté religieuse. La liberté religieuse, disons, traditionnelle, et la liberté religieuse maçonnique. Et comment nous savons que dans le Vatican II, c'est la liberté religieuse maçonnique et pas la catholique, pour ainsi dire? Pour ce qui s'est passé après le Vatican II, donc l'interprétation de cette notion de liberté religieuse. Après le Vatican II, le pape Paul VI, il a obligé les derniers États catholiques, c'était l'Italie, l'Espagne, à l'époque c'était pas encore question de l'Italie, l'Espagne, à quitter de la Constitution que la religion officielle de l'État, c'était la religion catholique. Le général Franco, il ne voulait pas le faire, il connaissait bien son catéchisme. Le pape, il a obligé, après avoir prié une nuit, il était faible, il était laïque, il a obéi. Eh bien, c'est là qu'on voit que ce n'est pas la liberté de la religion catholique, mais c'est la liberté des cultes qui rentrent dans l'Église. Alors, c'est pour ça que, quelques années plus tard, sur le pape Jean-Paul II, que lorsque on va refaire les concordats en Italie, concordat qui a été fait en 1929, dans lequel, après 120 ans de laïcisme, de séparation de l'État de l'Église, Mussolini l'avait déclaré de nouveau la religion catholique, la religion d'État. Et alors, le pape de l'époque, c'était Pie XI, il avait dit quelques mois plus tard, le chef du gouvernement a donné Jésus-Christ à l'Italie et l'Italie à Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'avait fait l'empereur Théodose le Grand, déclarer que la religion catholique, c'est la religion d'État. Et ça, c'est justement conforme à la vérité objective, à la royauté sociale de Jésus-Christ. Lisez l'encyclique Quas Primas, les catholiques. Je parle aux catholiques. Si vous n'êtes pas catholique, c'est autre chose. Mais si vous soumettez votre intelligence au magistère romain, ben, sachez que c'est une dogme de foi, sans laquelle on ne peut pas se sauver. Quel petit Dieu serait Jésus-Christ si l'État, il n'aurait pas à le reconnaître? C'est pour ça qu'on parle des conséquences publiques de la divinité de Jésus-Christ, conséquences politiques de la divinité de Jésus-Christ. Gardez cette foi, demandez à la Sainte Vierge de garder bien firme cette foi si vous voulez vous sauver. Aujourd'hui, le laïcisme nous a pénétrés profondément. Et alors voilà qu'il y a aussi le pape Jean-Paul II, il y a quelques années, on a refait les concordats. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? En citant justement le Concile Vatican II, c'était le chef du gouvernement, un socialiste, il dit maintenant que l'Église a fait le Concile Vatican II, on peut réaliser cet idéal du Risorgimento. Le Risorgimento, c'était tout l'œuvre des libéraux, de la franc-maçonnerie du siècle passé, et enlever cet premier article dans lequel on disait que la religion de l'État catholique, que la religion de l'État italien, c'était la religion catholique. Mais qu'est-ce qu'il a dit le pape? C'est ça qui nous intéresse. Eh bien, quelques mois plus tard, le pape il a déclaré que les nouveaux concordats, 84, dans lesquels on enlève de la Constitution que la religion officielle de l'État, c'est la religion catholique, eh bien, le pape Jean-Paul II il a déclaré que c'est le modèle idéal des concordats. Eh bien, ça, on ne peut pas dire. Ça ne peut pas dire. N'est-ce pas? Et vous voyez alors que la liberté religieuse qu'on introduit maintenant dans l'Église, n'est pas la liberté religieuse des Christeros, par exemple, ce qui était toujours soutenu par les bons théologiens, mais c'est la liberté religieuse maçonnique qui est enseignée maintenant dans l'Église. La même chose passe pour les principes d'égalité. Oui. Nous avons vu que la révolution protestante introduit pour la première fois en Europe une nouvelle religion. Et cela, avec la guerre et avec la paix de Westphalie, porte à ce que nous appelons l'égalitarisme religieux. C'est-à-dire, pour la première fois, on déclare que les deux religions sont égales. Les catholiques, ils ont le même droit. C'est-à-dire. On a vu aussi que la révolution libérale, ces mêmes principes de l'égalitarisme le portent
sur la politique et sur la société, introduit ce que nous appelons l'égalitarisme politique. C'est bien vite fait, après avoir déclaré que toutes les religions sont égales, déclarer que toutes les idées sont égales. Et c'est là qu'il commence ce que nous appelons le démocratisme, c'est-à-dire l'affirmation politique du relativisme. Et vous voyez, depuis ce moment-là, il y a ces cérémonies liturgiques que c'est la votation dans les parlements. C'est là qu'on voit tous les fondements du relativisme philosophique. On ne sait pas la vérité. Ce sera les divins 51% qui vont nous dire la vérité. On ne sait pas avant si le mariage doit être indissoluble ou si c'est bien le divorce. On ne sait pas. Non, non, on doit voter. Ah, très bien. Alors, on fait les votations. Voilà cette nouvelle religion avec ses prêtres, s'est réunis dans les temples, c'est les parlements, avec beaucoup de dévotion et de silence, et ils font les votes. Et de cela, miraculeusement, sort la vérité. Voilà, les 51% ont dit que le divorce, c'est formidable. Alors, avant, c'était interdit, maintenant, c'est permis. La même chose avec l'avortement. On ne sait pas si tuer un enfant, c'est bien ou mal. Il n'y a plus de vérité objective. Ça dépend du divin 51%. Et encore une fois, une religieuse réunion dans la cathédrale du Parlement, et une votation, et si les électeurs, la plupart des électeurs, c'est pour l'avortement, eh bien, vous allez voir la surprise. Avant, dans ce même état, si vous faisiez ça, vous étiez puni, et après, pas seulement vous n'êtes pas puni, l'État vous paye l'hôpital. Formidable. Ben, qu'est-ce que c'est la philosophie qui est à la base de ces comportements politiques? C'est le relativisme le plus fanatique. N'est-ce pas? Eh bien, nous sommes spectateurs, bien sûr, en cette ténèbre de l'histoire, de ces comportements politiques, les divins 51% qui décident. Et c'est pour ça que sera une tyrannie épouvantable, surtout si on voit la jeunesse qui est en train de pousser, vous savez. Les jours qu'ils auront les 51% dans la main, ben courage, il n'y a pas peur. Il y a un Dieu. En tout cas, l'âme est immortelle, mais sur cette terre, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est la révolution socialiste qui engendre l'égalitarisme économique. On a déjà vu, n'est-ce pas, comme les Jacobins reprochent aux libéraux une incohérence. Vous voulez l'égalitarisme religieux, politique, social, et pourquoi pas aussi économique. Et la cause de la déségalité économique, c'est la propriété privée. C'est pour ça que Marx dit qu'il faut supprimer la propriété privée si nous voulons appliquer ces principes. Et vous savez déjà l'histoire, on a déjà vu. Alors, et j'attire votre attention sur ce principe de l'égalitarisme parce que ça continue. Et je vous demande aussi de faire des efforts pour individuer, mettant culturellement comme ce principe de l'égalitarisme est en train de s'appliquer partout. Vous-même, vous arrivez à comprendre. Par exemple, l'égalitarisme maintenant entre l'homme et l'animal. L'animalisme, le droit de l'animal. On commence à introduire ça. Et sachez qu'il y a déjà des auteurs, là c'est notre vache sacrée, Leonardo da Vinci, il disait que en voyant toute la révolution humaniste se faire, ce qu'on appelle la Renaissance, il disait, ça viendra un temps où les funérailles d'un animal seront comme les funérailles d'un homme. Eh bien, vous avez aujourd'hui les cimetières, vous verrez passer tout à l'heure une cortège funèbre, il y aura des hippies, c'est le chien qui est mort. Voilà, alors on va l'ensevelir en pleurant, très bien, voilà. C'est l'égalitarisme qui se manifeste par toute une culture égalitariste. Demandez-vous, faites des efforts pour voir où s'applique encore cette culture de l'égalitarisme entre l'homme et la femme. Et on dénature des rôles qui sont complémentaires et entre les parents et les enfants. En Italie, par exemple, les enfants commencent à appeler leurs parents par leur nom de baptême. Pas papa et maman, mais Jean et Antoine, Antoniette, je ne sais pas, voilà. C'est l'égalitarisme. Alors vous verrez qu'on s'applique à tous les niveaux. On peut même dire que l'enfer vomite cette parole d'ordre, l'égalitarisme. Il laisse aux sociétés secrètes et à ses militants de l'appliquer à tous les niveaux. Et vous allez détruire l'ordre naturel et chrétien. Pour essayer d'individuer, n'est-ce pas, tous les autres phénomènes. L'égalitarisme dans la façon de s'habiller, tout le monde en blue jeans, l'égalitarisme des sexes, l'unisexe, voilà. Essayer d'individuer tous les phénomènes culturels de l'égalitarisme. Parce que c'est ce que nous allons connaître demain. et après-demain. Mais mon père, mais alors, vous allez me dire, mais mettons même dans l'Église, on introduit ces principes. Eh bien oui, sous le nom de la collégialité. Pour comprendre bien cela, vous devez rappeler, que notre Seigneur a fondé, quand il est venu sur cette terre, Dieu, il a fondé son Église hiérarchique dans les évêques et monarchique dans les papes. Mais après, il arrive le Vatican II. Le Vatican II, c'est le modernisme, c'est-à-dire adapter l'Église au monde moderne, mais le monde moderne est tout démocratique. Cette structure vieille de l'Église, il faut l'adapter. Et alors, après le Concile Vatican II, on a commencé à faire des instruments de démocratisation de l'Église. C'est les conférences épiscopales, qui n'existaient pas avant. C'est les conseils presbytéraux, qui n'est pas connu. C'est les conseils pastoraux dans les paroisses. Et l'objectif radical de l'égalitarisme, pour le moment un peu paralysé, n'est-ce pas, c'est les communautés de base. Pour vous dire brièvement, alors, comme il faut adapter l'Église au monde moderne, le monde moderne est démocratique, alors on a voulu mettre autour de l'autorité monarchique du pape des institutions démocratisantes, les conférences épiscopales. Et le même pape Paul VI qui avait fait ça, il s'est rendu tout de suite compte qu'est-ce que signifiait cela. C'était l'époque du catéchisme hollandais, n'est-ce pas? Les évêques hollandais, ils ont appliqué tout de suite le concile, ils ont pris l'initiative de faire un magistère parallèle, ils avaient fait un catéchisme dans lequel on niait entre autres l'existence des anges. Eh bien, le pape a dû les appeler à Rome et les reprendre, n'est-ce pas? Et c'était possible, hein, les reprendre. Alors les évêques, ils sont rentrés en Hollande, ils ont envoyé une carte au pape en disant « On vous remercie beaucoup des réflexions que vous avez faites. D'ici à 5 ans, après 5 ans, nous allons mettre en pratique vos conseils. » Voilà toute l'autorité monarchique du pape, déjà, sur les conférences épiscopales. Et aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de vous donner tous les détails. Il y a quand même eu un soulèvement de la conférence épiscopale des États-Unis à l'occasion d'un document qui a été fait pour 50 évêques, qui est là à l'unanimité, sous prétexte du sida. Ils avaient dit qu'il fallait permettre la diffusion des contraceptifs. Alors le cardinal Ratzinger, il a tout de suite envoyé un mot. Le cardinal O'Connor, qui était à Rome à ce moment-là, il a fait une déclaration publique sous les journaux en disant que c'est une grosse erreur. Voilà. Et à la suite de ça, et à la suite d'autres mouvements des évêques, alors le cardinal Ratzinger, il a envoyé un texte qui s'appelle « Instruction » à toutes les conférences épiscopales du monde en leur disant que la collégialité, c'était affective et non effective. Eh bien, le pauvre, il a essayé ce qu'il a essayé. Il y a eu une levée des boucliers compacte. Toute la conférence épiscopale des États-Unis, toute la conférence épiscopale du Brésil, c'était les plus grandes. Ils ont dit, non, vous allez contre le Vatican II. On est arrivé au point qu'on a dû faire une réunion à Rome, dans la salle des testerotes, et c'est la plus cachée du Vatican, avec les représentants de toutes les conférences épiscopales, de la conférence épiscopale des États-Unis. Ils sont bien prémunis avant de partir de faire toutes les déclarations qu'ils voulaient. Par exemple, Monseigneur Lave, il a déclaré que pour les États-Unis, la liberté et la démocratie, c'est les principes fondamentaux, et l'esprit. Voilà, il a dit exactement ça. Qui, pour les Américains des États-Unis, la notion d'évêque des droits divins, c'est un peu comme la notion moyenâgeuse des rois pour droits divins. Ils n'arrivent pas à la comprendre. Voilà. Bon. Alors, ils ont causé, on ne sait pas ce qui s'est passé, seulement dans une périodique, dans une revue mexicaine, est sortie la nouvelle gelée dans laquelle on a dit qu'on n'a pas pu trouver un accord. Et ça, c'est probablement la situation actuelle. C'est-à-dire, les conférences épiscopales, désormais, ils commencent à faire un magistère parallèle à l'autorité monarchique, qui est quand même moderniste, hein, du pape. Et où ça va terminer ça, on verra. Seulement, il y a un auteur italien, de début du siècle, un moderniste fameux, Ugo Fogazzaro, qui a écrit un livre intitulé « Il Santo », le Saint, en disant, répandez ces idées modernes dans les séminaires et vous verrez, ça viendra un jour dans lequel Pierre, le pape, essaiera de sortir ses filets de la mer
pour voir ce qu'il y a dans l'Église, il verra de tels monstres qu'il laissera tout tomber, il ne fera rien. Et c'est l'impression de ce qui se passe actuellement. Les erreurs se répandent dans l'Église, et d'ailleurs c'était le cardinal Gagnon qui avait déclaré à Mgr Lefebvre, n'est-ce pas, la conférence épiscopale des États-Unis est déjà en état de schisme, mais le pape ne veut pas la déclarer pour ne pas effrayer les fidèles. Alors courage. Qu'est-ce qui se passe? Sur quatre points, surtout, les anticonceptifs, la femme dans les sacerdoces, le célibat des prêtres et la réintroduction des prêtres mariés dans les ministères. Et c'est le point dans lequel il y a déjà un magistère parallèle. Et alors, on verra où ça va terminer. C'est là pour la collégialité. Je passe rapidement. Il y a l'autre, autour de l'évêque diocésain. Après le Concile Vatican II, on a fait le Conseil presbytéral. Celui-là, on ne le connaît pas tellement, on n'en parle pas trop parce que c'est un explosif très grand. C'était Mgr Pintonello qui a eu droit un peu à connaître ça. Mgr Pintonello, c'était un évêque qui s'occupait des aumôniers militaires. Un jour, il y a un aumônier militaire qui ne fait pas son devoir, alors il dit à son secrétaire, appelez-le, je vais le corriger. Le secrétaire lui a dit, Monseigneur, maintenant, on ne peut plus faire comme ça, il faut réunir le conseil presbytéral et prendre la décision ensemble. Alors, Mgr Pintonello a dit, ah, c'est pas moi qui me commande. Il a donné un gros coup de poing sur la table. Il a donné les démissions comme évêque ordinaire des aumôniers militaires. Voilà. Après, au niveau de la paroisse, on a fait maintenant le conseil pastoral. C'est un petit parlement autour du curé. Et bien sûr, maintenant, on a obligé le curé à avoir ce petit parlement dans lequel il y a les représentants de tous les groupes catholiques. Et bien sûr, aujourd'hui, tout le monde est catholique, homosexuel catholique, féministe catholique. Et en Hollande, on a déjà proposé que les curés aillent une seule voix comme tous les autres, pas plus. Vous voyez la démocratie dans l'Église. L'objectif final, cependant, c'est encore plus radical, c'est les communautés de base. En résumé, les communautés de base, ça marche comme ça. C'est une communauté qui s'est mise à côté de la paroisse, qui est guidée de façon un peu cachée par une agent pastoral, qui peut être une curée, une sœur, une laïque. Il prend les membres de la paroisse et ils font des réunions, des discussions de l'Évangile, en disant, ici tout le monde peut dire ce qu'il veut, n'est-ce pas? On n'impose pas son idée à l'autre, on respecte, on fait exercice d'égalitarisme doctrinaire, n'est-ce pas? Et maintenant, on arrive à la fraternité, le troisième point. Mais mon père, mais vous êtes contre aussi la fraternité. Il faut faire une distinction entre la fraternité catholique et la fraternité maçonnique. Peut-être que vous n'avez jamais vu la différence. Quelle différence il y a entre la fraternité catholique et la fraternité maçonnique? Nous nous disons frères, nous les catholiques, parce que nous avons la même doctrine. Réfléchissez bien. Nous avons les mêmes credos, les mêmes magistères romains. Du Japon à la Suisse, du Mexique à la Pologne, si vous voulez, n'est-ce pas? Nous sommes unis, même si on ne se connaît pas. Et c'est le magistère romain traditionnel, nous devons dire aujourd'hui après le Concile, qui nous unit. Alors, il y a aussi un ennemi de l'Église assez connu, Antonio Gramsci, un communiste, qui disait, et voyez, la force de l'Église, c'est son unité doctrinaire. Voilà la fraternité doctrinaire. C'est une unité dans la vérité doctrinaire. Et la fraternité maçonnique, c'est autre chose. Dans la loge maçonnique, il s'appelle frère en ayant des doctrines différentes. Il y a un athée, un catholique, un juif, un musulman, voilà. Et il s'appelle frère, tout en n'ayant pas une unité doctrinaire. Mais vous voyez tout de suite la différence. Hein. Une autre chose, c'est que notre esprit croit la même chose. C'est le magistère romain traditionnel qui nous unit. Et autre chose, c'est s'appeler frère, c'est une fausse fraternité, n'est-ce pas, en ayant des idées complètement différentes. Hein. Et nous voyons que cela est en train de se réaliser, donc dans la cité temporelle, et il y a cette fraternité universelle qui est en train de se faire, une unité en dehors de la vérité, maintenant il y a aussi un nom, c'est le nouvel ordre mondial, une tentative d'unification de tous les mondes dans la diversité religieuse et idéologique. Il y a un gouvernement, c'est l'ONU, qui a toutes ces branches pour l'école, c'est l'UNESCO, etc. Nous avons une unification économique,
c'est le Fonds monétaire international. Il y aura une seule langue aussi, l'espéranto. Vous voyez, tout ça, ça est en train de se préparer. Ce que nous pouvons dire, c'est que c'est justement l'opposé de la chrétienté. Nous croyons que Dieu existe, que Jésus-Christ est Dieu, qui s'est incarné, qui a fondé l'Église, qui c'est l'unique vrai, l'Église. Eh bien, la chrétienté, c'était le règne social de Jésus-Christ. Et maintenant, est en train d'être bâti le règne social de Satan. Le règne social de Jésus-Christ, c'était l'union dans la vérité qui a apporté notre Seigneur. La vérité objective. Le royaume social de Satan, c'est l'unification dans le relativisme religieux et idéologique. Hein. Et alors vous pouvez me dire, mais mon père, maintenant même dans l'Église, on est en train de faire cette fraternité malgré les différences doctrinales. Ça s'appelle l'écuménisme. Avec des grands faits les plus importants, c'est les congrès d'Assise, la visite à la synagogue aussi, et on nous promet maintenant une grande réunion sur le mont de Sinaï pour la fin du siècle. Et c'est là qui est donc, pour être bref, il y aurait de quoi dire, n'est-ce pas, mais c'est pour cela qu'on a fait la réforme liturgique, voilà qu'on touche maintenant à la question de la messe. La question de la messe n'était pas une question des Français. Monseigneur Lefebvre l'avait dit, s'ils auraient seulement changé la langue, n'aurait été pas si grave. C'est qu'on a voulu faire une nouvelle rite. Et pour comprendre cela, je vous rappelle brièvement, qu'est-ce que c'est la liturgie? La liturgie sont les mouvements et les paroles qui doivent protéger une dogme, une doctrine. Et alors, nous les catholiques, par exemple, nous croyons que la messe, c'est un sacrifice. Alors voilà que sur l'autel, d'abord c'est un autel, parce qu'un sacrifice, on le fait sur un autel, il doit y avoir la croix. Mais voilà que maintenant on veut faire l'unification mondiale, l'union de toutes les religions. Et les protestants, ils n'aiment pas la notion de sacrifice. Alors on ne va pas changer la langue, on va changer les rites. Et vous avez vu, c'était le spectacle de ces 25 ans, 30 ans. D'abord, il y avait une petite croix sur l'autel, après on l'a mis à côté, maintenant la croix a disparu complètement. C'est-à-dire que la liturgie protestante est incompatible avec la liturgie traditionnelle de l'Église. Alors on a fait une nouvelle messe qui soit acceptable même pour les protestants. Un autre point de doctrine, si vous voulez, l'Eucharistie, la présence réelle. Nous croyons que les prêtres, au moment de la consécration, ils font le miracle de la transsubstantiation. Et alors, la liturgie, c'est les mouvements et les paroles, n'est-ce pas, qui protègent ces dogmes. Alors, après la consécration, les prêtres vont s'agenouiller tout de suite. Ils gardent les doigts réservés. La communion, on la fait à genoux. Mais maintenant, il faut s'approcher à la religion protestante. Et les protestantes nient, selon la secte, la présence réelle. Et alors voilà que dans la réforme liturgique, on a enlevé les mouvements qui étaient trop anti-protestants. Et en effet, la génuflexion, on l'a fait seulement après l'élévation. Avant, on la faisait avant. Après la consécration, avant l'élévation, il y avait la génuflexion. Maintenant, d'abord, on lève l'hostie, et après, les prêtres s'agenouillent. Ça dépend encore de quel prêtre. Il y a une telle créativité, on a vu au Mexique les papes à dire toute la messe sans faire une seule génuflexion, bien sûr. Il y a toutes ces choses-là qui passent. Mais la communion alors de la main, d'abord debout, après de la main, voyez, alors, la réforme liturgique, ce n'est pas une question des Français. C'est des nouveaux mouvements, des nouvelles paroles pour introduire une nouvelle doctrine. Et c'est là le poison de la nouvelle liturgie. C'est pour ça qu'il ne faut pas assister, disait Monseigneur Lefebvre, à la nouvelle messe. Ça peut être valide, mais tous les mouvements, toutes les paroles, n'est-ce pas, c'est un glissement dangereux vers la doctrine protestante, ce que disaient le cardinal Bacci et Ottaviani. Et alors, tous les autres phénomènes d'écuménisme, des fraternités universelles dans l'Église, la Bible interconfessionnelle, toutes les occasions dans lesquelles on prie avec des gens qui ne sont pas catholiques, eh bien, sachez seulement qu'avant le Concile Vatican II, si vous alliez prier avec des gens qui n'étaient pas catholiques, vous étiez soupçonné d'être hérétique. C'était le droit canon. Et si vous n'allez pas vous rétracter, vous étiez déclaré hérétique. Pourquoi? Pourquoi tant de précautions? Eh bien, ça, je ne sais pas combien de gens le comprennent, c'est que la foi, c'est le don le plus grand qui nous a fait le bon Dieu. C'est un don, la foi. Et alors l'Église qui est une mère ne veut pas que vous allez mettre en danger ces dons si importants, sans lesquels vous ne pouvez pas vous sauver, en allant à prier avec des gens qui ont une autre doctrine, pour le danger que vous allez perdre la foi. C'est parce qu'il y avait toutes ces précautions. Eh bien aujourd'hui, c'est autre chose. Et voilà alors que le schéma est complet. Vous pouvez voir dans ce troisième schéma comment ces principes de liberté, égalité, fraternité ont passé de la société temporelle, après six siècles dans lesquels on les a introduits dans cette société temporelle, maintenant avec le Concile Vatican II, ce que Mgr Lefebvre appelle la Troisième Guerre mondiale, ils sont rentrés dans l'Église et produit cette auto-démolition de l'Église. C'était ça que Mgr il nous demandait, d'essayer d'expliquer pourquoi nous résistons à ces principes de la liberté religieuse, de la collégialité, de l'écuménisme. Dans le livre, un évêque parle, il les appelle trois bombes à éclatement retardé. Eh bien, nous sommes en train de voir tous les résultats. Il nous reste seulement qu'à conclure avec les magistères romains traditionnels, ce qu'a dit l'Église contre ces principes de liberté, égalité, fraternité. Pour nous, Rome, la Rome éternelle, c'est le phare, c'est pas notre raison, non, c'est les magistères romains qui nous ont dit cela. Eh bien, vous avez tous les papes qui ils ont toujours condamné ces principes depuis le pape Pie VII. Vous pouvez trouver ça sur le livre, toujours, note sur la révolution de l'Église. Il y a quelques références, n'est-ce pas? Et le pape Pie VIII, Grégoire XVI, le plus fort certainement c'est le pape Pie IX, dans lequel il condamne dans la Quanta Cura, d'une façon que nous croyons infaillible, ces principes de liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous avez les livres sous la main ici? Vous n'avez pas encore vu? Je fais les citations directes. Pourquoi vous n'êtes pas parti pour... C'est mortel, hein, ça. Il faudra une semaine pour se reprendre. Voilà, brèvement. Je peux continuer? Ouais. Voilà ce que disent les papes Pie VI, le 9 mars 1783. Fausse doctrine. Un des premiers décrets de l'Assemblée assure à chaque individu la liberté de penser et de sa manifestation publique. Fausse doctrine. Voilà ce que dit le pape. Un peu plus tard, le 10 mars 1791, il dit « Cette liberté religieuse, qui n'assure pas seulement le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions religieuses, mais aussi de penser, décider, écrire et faire imprimer en matière religieuse tout ce qui peut suggérer l'imagination la plus immorale. Droit monstrueux, qui cependant semble plaire à l'Assemblée, de l'égalitarisme et de la liberté naturelle pour tous les hommes. Droit chimérique. » Voilà ce que dit le pape. « Cet égalitarisme, cette liberté tant exaltée ne sont pour lui, l'homme, depuis qu'il vient à la lumière, que des paroles vides de sens. Pour faire disparaître de tout bon jugement les fantômes de la liberté indéfinie, il serait suffisant de dire que ce fut le système des Vaudois, des Béguins, condamnés par le pape Clément V, Wyclef et finalement Luther, se sont servis de ce même attrait de la liberté sans frein. Cette hérétique insensée. » Voilà, le pape Pie VI appelle Luther hérétique insensé. Le pape Jean-Paul II l'appelle le docteur des deux églises. Alors, qui c'est qui a raison? Les autres papes, ils ont dit un peu la même chose. Je vais tout droit à la Quanta Cura. C'est le 8 décembre 1864. Pie IX, il dit... Perfide machination des méchants, qui en promettant la liberté par les moyens des fausses doctrines et des cris très pernicieux, déracinent les fondements de la religion catholique. Ne manque pas d'hommes qui, en appliquant la société civile, l'impie et absurde principe du naturalisme, demandent que la société humaine se constitue et se gouverne sans tenir compte de la religion, comme si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie religion et la fausse. De plus, en allant contre la doctrine de la Sainte Écriture, du Magistère, des Saints-Pères, Il ne laisse pas d'affirmer que le meilleur gouvernement est celui dans lequel on ne reconnaît pas au pouvoir l'obligation de réprimander par les sanctions des peines les violateurs de la religion catholique, sinon dans la mesure où la tranquillité publique le demande. Et en conséquence, ne craignez pas de favoriser cette opinion erronée que Grégoire XVI appelait « délire », c'est-à-dire que la liberté de conscience et de culte est un droit libre de tout homme, qui doit exister, être proclamé et garanti dans toute société bien constituée, et que les citoyens ont toute la liberté de manifester hautement et publiquement leur opinion, quelle qu'elle soit, en parole, par écrit ou de toute autre manière, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse limiter cette liberté funeste. En soutenant, dit le pape Pie IX, en soutenant ces affirmations téméraires, il ne pense pas et ne considère pas qu'il proclame la liberté de perdition. Et maintenant, écoutez bien comme termine l'encyclique Quanta Cura du pape Pie IX. Ainsi donc, nous, pénétrés du devoir de notre ministère apostolique pour le salut des âmes, toutes et chacune des différentes opinions et doctrines qui sont signalées en détail dans ces présentes lettres, nous les réprouvons de notre autorité apostolique, les proscrivons, les condamnons et nous désirons et commandons que tous les fils de l'Église catholique les tiennent pour réprouvés, proscrites et condamnés. Acceptez le Vatican II, si vous pouvez. Vous voyez, vous serez obligés de désobéir aux autres papes. C'est seulement ça que nous voulons mettre en lumière aujourd'hui. Les papes, ils sont en train d'enseigner les contraires des papes d'avant. Et ce que nous a dit Monseigneur alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le drame du catholique de la fin du siècle XXe siècle. Eh bien, Monseigneur, qui est l'homme suscité par Dieu pour cette crise de l'Église, il nous a donné cette solution, commentaire qui nous fait Saint Vincent de Lérin, en disant, regardez un peu l'histoire de l'Église et vous verrez qu'il y a toujours eu des hérésies, des confusions. Alors, comment peut-il faire une pauvre catholique pour ne pas se tromper? Et Saint Vincent de Lérin dit, je vous donne une règle. Continuez à faire et à croire ce qu'ils ont fait toujours, tous et dans tous les lieux. Ça, c'est catholique. Les choses nouvelles sont nouvelles. Et voilà, alors demandons à la Sainte Vierge, Notre-Dame de Fatima, Cœur Immaculé de Marie, de nous garder dans cette foi de l'Église catholique, de ne pas désobéir au pape de toujours. Ainsi soit-il.
Nous voilà au 15 août, la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge au ciel. Qu'est des raisons pour se réjouir avec notre maman du ciel, mais qu'est raison aussi pour méditer, pour bien comprendre tous les grands leçons que la Sainte Église veut nous donner. Et bien sûr, la plus grande leçon, c'est que la Sainte Vierge a été élevée au ciel, dans son corps. Pourquoi? Parce que c'est la mère de Dieu. Toute la grandeur de la Sainte Vierge, c'est d'être la mère du Créateur du ciel et de la terre. Et c'était les 1950, lorsque le pape Pie XII, devant tout le monde catholique, proclama les dogmes de l'Assomption. La Vierge Marie, cette femme qui était choisie, on peut dire il y a 1993 ans, pour Dieu, pour donner la chair au Verbe éternel, eh bien, son corps n'est pas resté sur cette terre. Dieu, miraculeusement, l'a levé au ciel. C'est pour cela que nous fêtons l'Assomption. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que je crois doit aussi désirer beaucoup la Très Sainte Vierge. Elle vous le dit, oui. Toute ma gloire, c'est d'être la mère de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la terre? Ah, si nous regardons ce qui se passe sur la terre, eh bien, on voit deux volontés qui sont en train de se lutter. Deux volontés. la volonté de Jésus-Christ, justement, le fils des entrailles de la Très Sainte Vierge, la volonté de notre Seigneur d'être adoré exclusivement, et la volonté de Satan qui veut le mettre sur le même pied que les autres religions. Et alors, avec quelle indignation, la Sainte Vierge, elle qui sait que les fruits de ses entrailles, c'est l'unique Dieu, il n'y a pas Dieu en dehors de lui, avec le Père et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que doit sentir la Mère de Dieu? De voir que les hommes d'Église, comme ils ont fait Assise, ils ont mis l'unique vrai Dieu au même pied que les fausses religions. Ça, c'est la volonté du démon, l'ennemi de la Sainte Vierge. Et alors, glorifions la Sainte Vierge en lui disant, « Maman, même si aujourd'hui tout travaille pour mettre Jésus-Christ sur le même pied que les autres religions, moi, non. Pour moi, Jésus-Christ est exclusif. Je suis un pécheur, comme les publicans, oui. Dimanche passé, on a médité ça. Ma maison est pauvre. Je suis un pécheur. Mais ici, dedans, j'adore seulement les fruits de vos entrailles. Ici, dedans, je ne vais pas mettre Jésus-Christ sur le même pied que les autres religions, comme a fait le pape. Comme a fait le pape Assise. Voilà. Alors, profitons de cette journée de gloire, l'Assomption d'être Sainte Vierge, pour lui dire toute notre foi, toute notre décision. Quelqu'un a dit, vous savez, on est passé d'une société dans laquelle il y avait une seule religion, c'est vrai, autrefois nos aïeux, ils n'adoraient que Jésus-Christ, on ne connaissait pas autre chose, on est passé à une société pluraliste. Ah, très bien. Alors maintenant, il faut mettre tout sur le même plan, sur le même pied. Et Jésus-Christ nous dit, à moi, moi qui je suis votre créateur, vous me mettez sur le même pied que des morceaux de bois. Mais vous, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Les premiers commandements, je suis votre Dieu, ne mettez pas d'autre Dieu devant moi. Et voilà alors ce que c'est le grand désir de notre maman du ciel. Et aujourd'hui nous devons la glorifier, lui dire toute notre foi. Et plus cette blasphème que le démon tâche de mettre dans les âmes des catholiques, de mettre Jésus-Christ sur le même plan que les autres, plus cette blasphème se fait fort, plus nous devons réparer, faire réparation à ce cœur immaculé. Dans une semaine, sera son cœur immaculé et sa fête. Et lui dire, maman, moi, non. Moi, dans mon cœur, je vais faire comme mes aïeux. Lorsqu'il n'y avait qu'un seul Dieu, regardez comment on est passé d'une société dans laquelle il n'y avait que Jésus-Christ. Tout nos villages, il y a des églises. C'était seulement pour Jésus-Christ. Ça montre qu'on adorait exclusivement cette exclusivité. Vous voyez, il y a une virginité de l'acte de foi. L'acte de foi vierge, c'est-à-dire que j'adore que Jésus-Christ, notre Seigneur, avec le Père et le Saint-Esprit. Dans mon âme, je ne vais pas mettre sur le même pied Jésus-Christ avec les autres, comme a fait le pape. Assise. Quel malheur! Quel malheur! Comme font les hommes d'église. Et cela va devenir encore plus fort. C'est pour ça que nous devons nous préparer. Sachez qu'il y a cette duel entre deux volontés. L'histoire, c'était cette duel. La volonté de notre Seigneur d'être exclusif. Disons au Sacré-Cœur, mon Jésus, vous êtes l'unique. Et la volonté des démons, de les mettre sur le même pied que les autres. Alors, préparez-vous bien, résistez. Tout le monde va vous mettre dans la tête, dans votre esprit, cet pluralisme, pluralisme religieux, pluralisme idéologique. Non. Nous n'avons qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Et c'est là qui fait la joie de la Très Sainte Vierge. Vous voulez la faire contente? Ben, dites-lui. Vous pouvez même faire une espèce de colloque pour lui dire, « Maman, j'ai qu'un seul Dieu. » Elle-même vous le demande du ciel. Est-ce que vous avez un seul Dieu? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Oui, j'ai un seul Dieu. Alors il va vous demander, et les autres religions? Moi, je les haïsse. Je ne peux pas voir les autres dieux. Et vous la faites contente. Et comment s'appelle votre Dieu? Vous demandera la Sainte Vierge. Alors dites-lui, avec tout votre amour, tout votre cœur, votre foi, mon unique Dieu, c'est les fruits de vos entrailles. Quel désir que les fruits de ces entrailles soient adorés exclusivement. Y a-t-il un autre désir dans la Sainte Vierge? Pouvez-vous imaginer qu'elle a quelque respect pour les fausses dieux, pour des morceaux de bois? Et aujourd'hui, c'est pas à croire. On a mis Jésus-Christ sur le même pied que des morceaux de bois. Et alors, profitons pour renouveler notre foi et même notre Seigneur. Ou faites alors une colloque encore, comme c'est la fête de l'Ascension avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge vous dit, mais qui c'est votre Créateur? Mais celui qui a fait le ciel et la terre, qui est à l'origine des minéraux, des végétaux, des animaux. Une fourmi, c'est la preuve de l'existence de Dieu, une fourmi. Une machine si petite, parfaite, que les hommes ne peuvent pas faire. À l'origine, il y a une intelligence supérieure qui a fait ça. La Sainte Vierge vous demande, mais qui c'est qui est à l'origine de tout ce qui existe? C'est pas les fruits de mes entrailles? Et alors, adorez-le seulement, exclusivement. Ne le mettez pas sur le même pied que les autres religions, comme a fait le pape. Et la Sainte Vierge vous demande encore, mais qui c'est qui va vous laver les péchés dans son sang? C'est pas seulement Jésus-Christ, mon Fils, qui peut vous laver vos péchés dans son sang? Et alors, pourquoi vous le mettez sur le même pied que les autres religions? Qui c'est qui donne l'être à tout ce qui existe? Les minéraux, toutes les montagnes, les végétaux, toutes les herbes, toutes les plantes. Qui c'est qui donne l'être? C'est Dieu. C'est mon Fils, dit la Vierge. Et pourquoi vous le mettez sur le même pied que les autres? Pourquoi vous dites que c'est tout pareil, toutes les religions c'est pareil? Voilà, alors voyez ces blasphèmes qui est en train de se faire, n'est-ce pas, dans le monde, et avec quelle réparation nous devons consoler le cœur immaculé de Marie en lui disant: je suis pécheur, cette maison est pauvre, mais ici dedans, on a fait un acte de foi vierge. On adore que les fruits de vos entrailles. Et alors, dans l'Épître, c'est pour cela que la Sainte Église nous parle de Sainte Judith, dans l'Ancien Testament, cette femme qui coupa la tête de l'ennemi du peuple d'Israël. C'était une image de la Vierge. La Vierge qui doit lutter contre Satan, contre cet serpent, et ça ne lui grillant de mon fort. Dans les traités de la vraie dévotion, il dit que Dieu a mis une seule inimitié. Au jour du péché originel, il dit, je vais mettre une inimitié entre toi, serpent, et la femme, et tes enfants et ses enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que la vie, c'est un duel entre ceux qui adorent Jésus-Christ et ceux qui veulent le mettre sur le même pied que les autres. Et la Sainte Vierge, il dit, Saint Louis Grignon de Montfort, il a cette inconciliable inimitié, n'est-ce pas, avec les serpents. Et cela va augmenter jusqu'à la fin du monde. Et elle nous fait participer de cette lutte, de cette haine contre l'enfer. Si nous sommes vraiment ses enfants, nous devons participer de sa volonté, d'être exclusifs. Dans notre intérieur, il faut quelque chose d'exclusif pour les fruits de ses entrailles. Et alors, elle vous bénira du ciel. Et ne nous promet pas sur cette terre la récompense. Elle nous la promet pour la vie future. Comme a dit à Fatima, aux trois enfants de Fatima, mes enfants, ici c'est la lutte. Mais je vous promets de vous amener au ciel. Est-ce que vous désirez autre chose? Que quand nous arriverons à la fin de cette vie, qu'est-ce que nous pouvons désirer sinon d'aller avec les biens infinis, avec notre Père qui est dans le ciel, avec tous nos aïeux qui n'ont fait qu'adorer que les fruits des entrailles de la Sainte Vierge? Eh bien, c'est la grâce que nous allons demander aujourd'hui. En nous souvenons que notre Seigneur est venu dans ce monde pour les racheter. Il a fait la rédemption. Il a tout payé. Il faut encore en profiter. Mais il a tout payé. Mais pour venir à nous, il est venu pour la Sainte Vierge. Et alors, il nous montre que si nous voulons aller à lui, c'est par elle que nous devons passer. C'est par elle qu'il veut régner. C'est ce que nous pouvons dire le chef-d'œuvre de la Très Sainte Trinité. C'est la préférée, la Sainte Vierge, de la Très Sainte Trinité. Ça, c'était tout la cause du péché de Lucifer. Quand Lucifer, il a vu que les bons dieux, il avait révélé qu'il allait créer les hommes. Les hommes, ils allaient faire un grave péché, le péché originel. Et alors Dieu allait prendre une nature créée pour nous sauver. Alors Lucifer, qui était le plus parfait, il a cru que c'était lui. Et le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, parce qu'il est supérieur. Il a dit non. Et quand Lucifer, il a vu que la Trinité a préféré la Vierge, alors il s'est transformé de grâce en malice. Il s'est transformé en démon. Il a dit non, moi alors non, je ne suis pas d'accord. Il ne s'est pas soumis au bon Dieu. Voilà ce que c'est la Sainte Vierge, la préférée de la Très Sainte Trinité. Son chef-d'œuvre, la pleine de grâce. Un seul acte, le bon Dieu a tellement rempli cette créature, et l'a choisi par son humilité, hein. Elle le dit dans les Magnificat, elle n'a pas choisi par son innocence, par sa virginité, elle était innocente, elle était vierge. Non, non, choisi par son humilité. Ah, cette vertu de l'humilité. Ah, cette... qui? Mettons-nous à l'école de la Vierge et nous considérons les derniers, pour nous considérer les derniers. Pourquoi la Très Sainte Trinité aime tellement l'humilité? Oh, demande-lui à la Sainte Vierge, elle va vous l'apprendre. Le bon Dieu est riche, n'a pas besoin d'autre chose que nous reconnaissons que nous sommes à rien. Nous sommes les derniers. Mettez-vous, notre Seigneur, il vous dit de vous mettre à la dernière place. C'est pas facile. Se mettre à la dernière place. Regardez les autres comme se mettre, les servir. Eh bien, la Trinité aime tellement qu'il a choisi la Vierge pour son humilité. Et alors, l'a tellement rempli de grâce, on dit gratia plena, plein de grâce, qu'un seul acte de cette créature, Dieu la préfère beaucoup plus, on peut dire presque infiniment plus, que tous les sommets de tous les actes de tous les anges, de tous les saints. Pourquoi? Parce que c'est la pleine de grâce. Et alors, aujourd'hui que nous allons fêter l'ascension, c'est pour cela, parce qu'il était choisi à cause de son humilité, parce que le bon Dieu l'a rempli des grâces, qui a été fait mère de Dieu, et pour être mère de Dieu, son corps ne devait pas rester sur cette terre. Son corps, à sa mort, a été élevé aux cieux pour rester avec le corps de Jésus-Christ aussi qui est aux cieux. Et un jour, nous aurons la voir. Eh bien alors, unissons-nous à elle dans cette journée, mais en essayant de connaître ses désirs, et en voyant elle sur la terre, comme maintenant on met Jésus-Christ sur le même plan que des morceaux de bois, et vous savez déjà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut lui dire. Et la Sainte Vierge même, quand les samedis saints, dans la Passion, tout le monde avait perdu la foi, Saint-Pierre, les apôtres, les papes, ils étaient partis. Qui c'est qui a conservé la foi que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité a portée sur cette terre? Seulement le cœur immaculé de Marie. C'est pour cela que l'Église consacre le samedi à la Sainte Vierge. Parce que dans ces samedis saints, c'est l'évêque des sectes et terres, l'acte de foi le plus solitaire, le plus cruel et le plus parfait qui n'a jamais existé. Quelle gloire a reçu à ce moment la Très Sainte Trinité de l'Esprit de la Vierge qui n'a pas perdu la foi? Tous les autres, ils avaient perdu la foi. Et aujourd'hui, nous arrive la même chose. Maintenant, nous sommes dans la Passion de l'Église. Nous sommes dans les samedis saints de l'Église. Eh bien, quelle chance que nous avons. Tandis que tous les autres, ils commencent à aller avec le communisme, avec toutes les religions, et nous, être restés exclusifs pour Jésus-Christ. Nous pouvons glorifier la Très Sainte Trinité, tandis que toute la propagande dans les paroisses, dans l'école, dans la télévision, et c'est pour dire que toutes les religions, c'est pareil. Que dans votre esprit reste cet acte vierge de foi, cet acte exclusif. Alors demandons à la Sainte Vierge de l'imiter au moment du ciel. Donnez-nous la grâce de vous imiter dans ce samedi saint de l'Église, faire comme vous dans la Passion de Jésus, rester exclusif pour Jésus-Christ. Et la Sainte Vierge aussi, il nous le dit, mais ne faites pas la communion si vous mettez mon Jésus sur le même pied que les autres religions. Mais ne faites pas la communion. Je ne vais pas vous donner les fruits de mes entrailles. Les fruits de mes entrailles, vous devez l'adorer exclusivement. C'est le premier commandement. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Alors nous disons, maman, voilà, moi je suis un pécheur, mais je vous promets, en renouvelant les promesses du baptême, nous allons renoncer à Satan et nous allons croire que Jésus-Christ est exclusif. Eh bien alors, disons-lui. Et alors, toute contente, elle dira, bien alors, venez faire la communion. Alors je veux que vous receviez dans votre bouche les fruits de mes entrailles. Adorez-le pour tous ceux qui ne l'adorent plus, pour tous ceux qui l'aiment sur le même pied que des morceaux de bois. Vous soyez exclusifs, restez exclusifs. Voilà la grâce que nous allons lui demander dans cette messe en offrant à la Très Sainte Trinité ces grands actes de foi qui fut fait sur cette terre les saints des saints. Ô Très Sainte Trinité, nous vous offrons l'acte de foi que vous avez recueilli dans le cœur immaculé de Marie, ces saints des saints. Elle a cru, elle a continué à croire, il n'a pas perdu la foi. Et par cet acte de foi que vous avez reçu, par cette gloire que vous avez reçu de l'Esprit de la Sainte Vierge, donnez-nous dans cette saint des saints de l'Église d'être des fils, d'être des enfants de la Sainte Vierge et d'être exclusifs pour notre Seigneur, de ne pas les mettre sur le même pied que les autres morceaux de bois, que des morceaux de bois d'autres religions, mais d'être toutes à notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.